Et samedi va se dérouler partout en France la première journée de la santé de la peau. 250 dermatologues sont mobilisés pour vous informer sur les pathologies, la prévention autour de la peau. C'est l'occasion donc aujourd'hui dans la Tête au Carré de consacrer notre dossier à notre organe multifonction pour comprendre comment préserver et soigner notre peau. Deux dermatologues sont les invités de l'émission pour répondre dès maintenant à vos messages que vous pouvez nous envoyer sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Une première mondiale. Des chercheurs français sont parvenus à créer des spermatozoïdes humains in vitro. Une prouesse technique, un bel espoir pour beaucoup d'hommes que nous allons détailler à la une de la science dans un instant avec vos questions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par François Mercier avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Il s'agit bien d'un organe dont nous allons parler, la peau, donc le dossier de la Tête au Carré. Marie-Alette Richard et Florence Corgibet, bonjour.
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 Vous êtes toutes les deux dermatologues. Marie-Alette Richard, est-ce que la peau est un organe fragile ou est-ce qu'au contraire, finalement, au fil de l'évolution, elle a montré ses excellentes capacités d'adaptation?
La peau est une carapace, c'est un mur.
C'est du cuir.
C'est extrêmement doux au toucher. Mm-hmm. Et je pense que ça la résume bien.
Ouais, mais c'est solide
ou c'est très solide. C'est très solide et en même temps très plastique et très élastique.
Oui.
C'est ces caractéristiques-là qui sont particulières par rapport à d'autres structures. C'est à la fois très résistant et en même temps très, comme je le disais, plastique malléable.
Oui.
Et ça, c'est vraiment lié aux différents tissus de la peau.
Et fragile parfois.
On est tous très fragiles. Bien entendu, notre peau peut être fragile et c'est pour ça que nous sommes là, pour aider à justement consolider les structures.
Florence Corgibet, quelles sont les maladies de peau en pleine recrudescence actuellement? Vous me les avez citées hors antenne, c'est assez stupéfiant quand même ce qui se passe. Hein.
Ah non, oui, effectivement, nous avons beaucoup de problèmes à régler. On pourrait imaginer que des vieilles pathologies disparues et pour autant elles sont toujours au devant de la scène. Alors une vedette, je dirais l'eczéma, parce que nous savons qu'il y a de plus en plus de problèmes allergiques et donc l'eczéma, en particulier l'eczéma du nourrisson, fait partie de ces maladies allergiques qui sont en pleine expansion.
Oui.
Mais également la version professionnelle de l'eczéma est importante. C'est une des l'eczéma de contact est l'une des et la première maladie professionnelle, source de reclassement professionnel. Donc c'est
on
une problématique importante. Et puis on a des pathologies un peu anciennes.
Des comebacks, on dirait.
Des comebacks. Ouais. La gale, par exemple.
Ouais,
la gale est en pleine expansion, avec un visage différent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un peu la gale des gens propres. Ce sont des personnes qui ont une contamination, souvent par des collègues ou par des adolescents avec des contacts dans leur entourage proche ou alors dans des services hospitaliers ou des choses comme ça.
Donc la gale, l'eczéma
une vieille pathologie, toujours sur le devant de la scène, dans les maladies sexuellement transmissibles. La syphilis également doit toujours être
à surveiller.
Et à dépister.
On va se retrouver donc dans un instant ensemble à l'occasion de cette première journée de la santé de la peau, samedi dans toute la France, et les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, une première mondiale, elle est française, des chercheurs sont parvenus à obtenir des spermatozoïdes humains complets in vitro.
Bon, les enfants, je crois que ça y est.
Ça fait comment quand on arrive?
On te l'a dit 100 fois à l'école, tu rencontreras des ovules.
J'ai peur, les gars, je veux pas y aller.
T'as pourtant suivi régulièrement l'entraînement.
Oui, mais j'ai la trouille, je veux pas sauter dans le noir.
Écoute, c'est plus le moment de douter de la mission. En rentrant à l'école, t'as pris des engagements, t'as juré de fertiliser un ovule avec les risques que ça comportait.
Non, j'ai peur, j'irai pas, je vous dis.
Voilà un hommage à Woody Allen pour évoquer donc la création de spermatozoïdes humains in vitro. Des chercheurs lyonnais y sont parvenus, ils l'ont annoncé ce matin, après avoir obtenu des spermatozoïdes complets, tout à fait fonctionnels à partir de cellules souches. C'est une première mondiale. Et nous recevons par téléphone deux des trois chercheurs à l'origine de cette prouesse, Marie-Hélène Perard et Philippe Durand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup. Félicitations d'abord pour cette prouesse. Vous êtes tous les deux biologistes. Marie-Hélène Perard au CNRS, Philippe Durand à l'INRA. Et vous êtes également cofondateur du laboratoire Calistem. Est-ce que d'abord, Marie-Hélène Perard, beaucoup d'équipes dans le monde travaillaient comme vous pour réaliser cette première spermatogénèse humaine in vitro?
Oui, oui, beaucoup d'équipes dans le monde travaillaient comme nous et il y a notamment une équipe japonaise qui avait réussi à produire des spermatozoïdes de souris in vitro, mais grâce à une autre technique que nous avons utilisée.
Donc vous êtes arrivés les premiers, on peut dire les choses comme ça ?
Mais disons qu'on est arrivés les premiers pour l'espèce humaine.
Oui. Philippe Durand, maintenant que le brevet est déposé, expliquez-nous quel est le secret de fabrication pour avoir ces spermatozoïdes humains en laboratoire ?
Eh bien, on a associé deux savoir-faire. Le savoir-faire des biologistes, Marie-Hélène Perard et moi-même, qui travaillons depuis plus de 20 ans maintenant sur les régulations de la spermatogénèse à l'intérieur du testicule, et un chimiste qui nous a fabriqué un bioréacteur. C'est un petit tube d'une matière qui s'appelle le chitosan, dans laquelle on insère les tubes séminifères, donc qui sont le siège de la spermatogénèse, et l'association de ces deux tubes, les tubes séminifères, qui sont donc le siège de la spermatogénèse, et le tube de chitosane que produit notre collègue chimiste. On maintient un confinement des cellules germinales et des cellules de Sertoli, qui sont les cellules nourricières de la spermatogénèse, de manière à faire l'ensemble de la spermatogénèse in vitro. Et donc l'avantage de cela, c'est qu'on peut cultiver pendant longtemps, donc une durée qui est compatible avec la durée de la spermatogénèse humaine, qui dure normalement à peu près 70 jours. Donc l'association de ces deux compétences nous permet d'arriver jusqu'au bout, la formation de spermatozoïdes qui sont morphologiquement normaux, mais dont on ne connaît pas encore la fonctionnalité. C'est le travail qu'on est actuellement en train de développer.
Donc là, il faudra passer par le rat et puis l'humain ensuite.
Alors, justement, ces spermatozoïdes in vitro, on les a fait chez le rat, chez le singe et chez l'homme. Donc l'étape maintenant, c'est d'abord chez le rat de valider que ces spermatozoïdes formés in vitro, ils sont capables de féconder un ovocyte et de faire des petits ratons parfaitement normaux.
Voilà, donc Marie-Hélène Perard, il y a encore un peu de travail, mais effectivement, vous avez levé le verrou technique là qui empêchait jusqu'alors de parvenir à la fabrication de ces spermatozoïdes. Donc il y avait la biologie et puis l'avancée technologique qui vous a permis vraiment d'aboutir.
Tout à fait. Parce que le verrou, enfin la clé de ce nouveau système de culture, en fait, c'est de bien garder la structure tridimensionnelle du tube séminifère, le lieu où se passe la spermatogénèse dans le testicule, à savoir donc les relations étroites, intimes, entre la cellule de Sertoli, qui est la cellule nourricière qui porte les cellules germinales, et qui permet donc leur différenciation, qui leur apporte tous les nutriments dont elles ont besoin pour franchir toutes les étapes de différenciation de la spermatogonie jusqu'au spermatozoïde. Et la clé donc, c'était bien de garder cette structure, de garder l'étroite communication qu'il y a entre la cellule nourricière et les cellules germinales.
Est-ce que ça fonctionne ? Vous avez évidemment coché sur votre agenda le jour où précisément vous avez obtenu pour la première fois un spermatozoïde humain fonctionnel, Philippe Durand ?
On n'a pas tellement coché le jour où on a obtenu le spermatozoïde humain, on a plutôt coché le jour où on a obtenu le premier spermatozoïde de rat. Parce que finalement, dans le système qu'on avait mis au point précédemment, on faisait que 80% de la spermatogénèse in vitro. On s'arrêtait. Finalement, ce système, on l'a fait fonctionner avec 7 espèces animales différentes. Donc ça veut dire que quand on a vu le premier spermatozoïde de rat in vitro, on pensait bien qu'on allait voir, dès qu'on mettrait en culture des spermatogonies humaines, qu'on allait pouvoir voir des spermatozoïdes humains. Et c'est ce qui s'est confirmé.
Ouais, donc ça, c'était vraiment le moment historique quand même pour vous, j'imagine. C'était
C'était l'aboutissement de 22 ans de travail sur la spermatogénèse et les régulations locales.
C'est ça, 22 ans de travail, effectivement. Et donc, vous avez déposé un brevet pour justement la partie technologique, le bioréacteur à spermatozoïdes là, que vous nous avez décrit, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de publication encore. Vous avez d'abord voulu protéger...
Elle vient de partir.
Mais Elle vient de partir. Ouais.
Elle vient de partir parce qu'effectivement, si on fait la publication, après on peut plus déposer le brevet.
C'est ça.
Donc c'est vrai que pour un chercheur académique, des chercheurs académiques comme nous, c'est pas très classique ce genre de démarche.
Bien sûr.
Là, on n'avait pas le choix. Parce qu'il est bien évident que pour que cette technologie puisse passer dans le domaine clinique, il va falloir beaucoup d'argent pour faire les études précliniques. Et si on n'a pas de brevet, on n'aura pas d'argent.
C'est ça. Donc là, vous avez rédigé votre publication. Elle est partie vers Nature ou Science, hein, j'imagine.
Vous imaginez assez bien.
Bon, ben, on attend en tout cas la publication officielle. Marie-Hélène Perard, pour terminer, quels sont les destinataires, au fond, de cette découverte, si elle s'avère efficace pour aider à concevoir des enfants?
Eh bien, disons qu'il y a deux types de patients qui pourront être soignés. Le premier, donc, ce sont les jeunes garçons prépubères qui n'ont pas de spermatozoïdes, parce que quand un monsieur a un cancer, eh bien, on peut préserver sa fertilité en faisant un prélèvement de sperme, mais ces jeunes garçons n'ont pas de spermatozoïdes, ils n'ont pas de cellules différenciées, et en général, s'ils sont très jeunes, ils n'ont que des spermatogonies, et donc le but, pour préserver la fertilité de ces jeunes garçons, avant qu'ils reçoivent le traitement de chimiothérapie qui, dans la plupart des cas, va les rendre stériles, eh bien, ça sera de leur prendre un petit peu de leur pulpe testiculaire, de la cultiver donc dans notre nouveau système de culture, pour obtenir des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes de ces jeunes garçons seront congelés, et lorsque ces jeunes garçons donc auront guéri, ils ont en général 80% de chances de guérir, qu'ils auront grandi, qu'ils auront rencontré une compagne et qu'ils auront envie d'être papa, eh bien, on pourra utiliser donc ces spermatozoïdes pour qu'ils soient parents. Et le deuxième type de patients, ce sont donc des messieurs qui ont un blocage de leur spermatogénèse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de gamètes, ils n'ont pas de spermatozoïdes. Leur spermatogénèse s'est arrêtée à une étape. Et donc, grâce à notre système de culture, de la même façon, on mettra en culture un petit morceau de leur pulpe testiculaire. Et pendant notre culture, nous avons des connaissances donc sur les facteurs qui sont nécessaires pour que la spermatogénèse se passe bien. Et on espère donc qu'on pourra lever le blocage que ces messieurs ont, c'est-à-dire pour permettre à leurs cellules bloquées de continuer leur différenciation jusqu'à obtenir donc un spermatozoïde, et donc la personne donc sera soignée puisqu'elle aura des spermatozoïdes et elle pourra donc devenir parent.
Merci en tout cas infiniment pour ces explications, à nouveau félicitations, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir en studio. Vous êtes les bienvenus en tout cas au moment de la publication par exemple, pour un dossier complet sur la spermatogénèse. C'est quand même suffisamment passionnant pour qu'on y consacre largement du temps. Marie-Hélène Perard et Philippe Durand. Merci beaucoup. On peut citer le nom de votre collègue technicien, on va dire ?
Oui, bien sûr. Il s'agit...
C'est un professeur
en chimie des matériaux, et c'est lui qui a mis au point donc le bioréacteur fait à base de chitosane, et il s'agit du professeur Laurent David.
Voilà, professeur donc, effectivement situé, pour la partie technologique.
À l'université Claude Bernard Lyon à l'IMP.
Merci beaucoup à tous les deux, et encore félicitations donc pour cette arrivée, donc cette prouesse sur la spermatogénèse humaine. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir.
Allez, la suite avec les informations. En bref, la première pierre de l'Institut des mathématiques d'Orsay vient d'être posée. C'était ce midi sur le campus universitaire d'Orsay en présence de François Hollande. Les trois anciens bâtiments de l'Institut vont être regroupés en un seul pour faciliter les déplacements entre les deux pôles. Fin des travaux prévus en 2016. Le venin de guêpe pour traiter le cancer, c'est une trouvaille de l'Université d'État de Sao Paulo. Une toxine contenue dans le venin de l'agressive guêpe Polybia polista tuerait des cellules cancéreuses sans toucher les cellules saines. L'étude montre que cette fameuse toxine détruirait les cellules cancéreuses de la prostate, de la vessie ou des cellules leucémiques. L'espoir d'une chimiothérapie moins violente pour les malades. Et puis enfin, on termine par ce sondage, les femmes et la science. Ça fait deux. Un sondage OpinionWay commandé par la Fondation L'Oréal Femmes et Sciences révèle que 90% des Européens pensent que les femmes sont douées pour tout excepté la recherche scientifique. Une réaction de nos deux invités, Marie-Alette Richard.
Écoutez, le témoignage de notre collègue du CNRS Vénérès est là que pour prouver que la femme remplit parfaitement son rôle aussi dans ce domaine-là de compétences.
Florence
et pas
Corribet.
Seulement.
Bah, je ne peux que approuver ce que vient de dire Marie-Alette. En particulier en médecine, la profession est extrêmement féminine et très bien représentée.
Mais les préjugés quand même,
les préjugés, on la vidure.
Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la santé de la peau. Parks et The Do.
La tête carrée sur France Inter.
Notre peau dans le dossier de l'émission, alors qu'est organisée samedi la première journée de la santé de la peau. Deux dermatologues sont mes invités pour en parler. Marie-Annette Richard, donc vous exercez à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes la présidente de la Société française de dermatologie. Et puis Florence Corribet, vous travaillez en cabinet à Dijon et vous êtes spécialisée en cancer cutané. Vous êtes présidente de la Fédération française de formation continue et d'évaluation en dermatologie vénérologie. Et toutes les questions nombreuses déjà arrivent pour vous sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque, première journée donc de la santé de la peau. Après-demain, dans toute la France, 250 experts, Marie-Alette Richard. Donc pour dialoguer avec le public, c'est vraiment ça, vous serez installé au cœur des villes.
Alors, effectivement, un dispositif qui va, pour cette première journée, cibler 8 villes de France, 8 grandes villes de France. Et effectivement, les dermatologues hospitaliers libéraux et nos internes, qui ont la gentillesse de se joindre à nous, sont là pour échanger, dialoguer avec la population française, le grand public, pour qu'ils puissent nous parler de leurs problèmes de peau et qu'on puisse les renseigner.
Pourquoi ? Parce qu'on est mal informé au fond ?
Parce que je pense qu'il y a toujours besoin de plus d'informations et que finalement, le chiffre qui me semble le plus symbolique, c'est que 8 Français sur 10 auront ou ont eu ou ont des problèmes de peau. Donc, c'est quelque chose qui finalement nous concerne tous et concerne le plus grand nombre et on a besoin d'être à disposition de tout le monde.
Donc, plusieurs villages. Florence Corgibet, vous serez chez vous à Dijon.
À Dijon, hein, tout à fait.
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Nancy, Paris et Rouen. Donc ça, c'est le but. Et donc, vous serez là, vraiment présente pour
alors,
répondre à toutes les questions.
Nous démarrons vers 11h dans toutes les villes, toute la journée. Et le dispositif sera organisé sous forme de tentes, exposant la problématique en fonction des différents âges de la vie. Nous avons cette particularité, effectivement, d'avoir des problèmes cutanés dès la plus tendre enfance et qui peuvent durer même tardivement et chez les seniors. Et donc, chaque âge a grossièrement et de façon un petit peu caricaturale des problématiques différentes et nous pourrons discuter avec les familles qui viendront demander et chercher des informations certifiées et authentifiées.
Vous aurez donc un site internet aussi à disposition, c'est journeesantedelapeau.fr et il est très bien fait. On peut donc savoir exactement où vous retrouvez dans ces 8 villes françaises. Qu'est-ce que ça représente la peau sur le corps humain en surface et en poids? Je le disais tout à l'heure avec Jean Lebrun, vous confirmez ces informations. 3 kilos de peau en moyenne, Florence Corgibet?
Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr, en fonction de la corpulence. Mais donc c'est un organe.
Alors c'est ça, oui, c'est un organe. Il faut vraiment y penser comme un organe.
Ça n'est pas un sac sec et une enveloppe sèche. C'est vraiment un organe en interrelation étroite avec l'organisme interne et qui donc à la fois nous protège, nous sépare, mais nous fait partager et échanger avec le milieu extérieur et également avec l'intérieur. Donc on peut imaginer que toute atteinte crée une rupture de notre soi et donc a des conséquences importantes qui peuvent être internes.
Marie-Alette Richard, on parle de microbiote cutané aussi, hein?
Ben, le microbiote, il est cutané, il est digestif, il est à toutes les interfaces. Et c'est une autre conception, je pense très élégante, effectivement, finalement, de la coexistence que nous avons, nous, êtres humains, avec des millions et des millions de bactéries, mais aussi d'autres agents qui, en fait, sont indispensables à notre vie, à notre fonctionnement, qu'ils soient cutanés ou qu'ils soient, effectivement, internes. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, effectivement. Et la vision, finalement, de la peau à travers le microbiote est assez élégante, d'ailleurs.
Élégante, c'est-à-dire.
Mais en fait, il y a plusieurs, on va dire, niveaux dans le microbiote qui sont particulières sur la peau par le fait que vous avez des espèces assez spécifiques suivant certains territoires anatomiques et qu'on voit très bien là, par exemple, les interactions qu'il peut y avoir entre le fonctionnel que peut apporter le microbiote et le relationnel. Parce que on peut voir tout à fait ce qu'on décline ou ce qu'a expliqué Florence Corgibet sur notre représentativité de la peau à travers le microbiote aussi. Et ça fait partie d'ailleurs des outils de communication de la peau. L'odeur de nos aisselles, c'est l'odeur qui est expliquée par notre propre microbiote, etc. etc. Et donc, on peut décliner ces exemples d'existence de ces agents animés sur notre peau pour beaucoup de fonctionnements et de physiologie de notre revêtement cutané.
Oui, alors, ces bactéries, donc, nombreuses hein, sur notre microbiote cutané, d'où une prévention, enfin, en tout cas, sur l'hygiénisme exacerbé. Attention à ce qu'on fait.
Ben, je crois qu'il faut le respecter. La première chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui nuire et donc il ne faut pas l'agresser en voulant à tout prix, par exemple, se décaper, se récurer la peau à coup de savonnage intempestif ou multiple dans la journée.
Marie nous dit ceci, j'utilise des brosses naturelles pour me brosser le corps avant chaque douche. Depuis, ma peau est plus lisse, le nettoyage des pores plus efficace et beaucoup de petits problèmes de peau sont évités avec un bon savon de Marseille. Le soin est complet.
C'est le scénario le pire
c'est ça que
j'entends là. Le savon de Marseille, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous, dans notre communication dermatologue, n'est pas forcément, on va dire l'outil d'hygiène le plus important, en particulier pour les gens qui ont une peau malade. Le savon de Marseille, c'est un excellent produit. Moi, je dis toujours à mes patients, c'est un très bon white spirit.
Ça calme déjà.
Ça calme. Enfin, disons que ça dégraisse la peau. Et puis après, on vous dit de l'hydrater.
Oui.
Je vous explique quand même que l'hydratation de la peau, c'est rajouter un corps gras. Quand on met une crème hydratante, c'est pas de l'eau qu'on met, c'est un corps gras. Et donc, quand on se nettoie la peau à coups de savon de Marseille, on se la dégraisse consciencieusement. Et donc, on est obligé de repasser derrière un corps gras qu'on a, puisqu'on a retiré le sien, pour pouvoir réparer quelque chose qu'on vient de faire. Mmh. Donc déjà, de faire attention à utiliser des savons adaptés, même que le mot savon n'est peut-être pas le plus logique, mais peut-être de parler peut-être de syndette, de savon sans savon ou de savon sur gras, est plus adapté, on va dire, pour l'hygiène de tous les jours. Et de la même manière, l'attaque physique par des brosses naturelles, je ne sais pas ce que c'est qu'une brosse naturelle, la main, ça suffit pour se savonner. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'agents artificiels, parce que qui décape la peau, c'est enlever aussi des cellules de la peau, et c'est quelque part agresser, irriter encore plus, et encore plus besoin derrière de remettre une crème hydratante, soi-disant pour apaiser l'agression qu'on vient de faire. Mmh. Donc le message est simplement de se dire, l'eau souvent ça suffit, le savon pour les zones les plus confidentielles, ben oui, il y a un besoin, mais il n'y a pas forcément de le multiplier sur tout le corps, surtout si on a une peau réactive ou malade, et puis pas forcément 5 fois par jour.
Oui, donc c'est ça, Florence Corjubé. Vous faites partie de ces dermatologues aussi qui préconisent, au fond, de mettre le moins de choses possible sur la peau quand c'est possible, quand il n'y a pas de problème particulier, c'est souvent de mettre juste de l'eau et même pas de crème parfois.
On voit la plupart du temps des gens qui effectivement se décapent trop. Mmh. Hein, tous ces savons sont très détergents et effectivement il y a une idée d'être plus sain en ayant une peau plus décapée. On a montré par exemple que les chirurgiens on doivent diminuer le temps de décapage avec ces fameuses brosses et avec des produits agressifs comme la bétadine, et que plus leurs mains sont décapées, plus elles transportent des germes, parce que justement il n'y a plus ce microbiote qui nous évite des maladies infectieuses, style le staphylocoque.
Marie demande comment se régénère la peau et en combien de temps à peu près pour le renouvellement de la peau. Alors vous répondez, Marie-Annette Richard.
La peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, et finalement l'assise de renouvellement, en tout cas de la partie la plus superficielle de la peau qui est l'épiderme, se fait au niveau de ce qu'on appelle une couche germinative, qui est extrêmement bien faite, puisque vous avez une partie du stock de cellules en renouvellement qui va en fait maturer, migrer et va fabriquer l'épiderme en lui-même, et une autre partie est destinée au renouvellement. Globalement, on estime que donc les kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, se renouvellent habituellement 28 jours.
28 jours, c'est ça.
Dans le psoriasis.
Vraiment sur la surface de la peau?
En fait, c'est un système qui est très très bien fait, parce que finalement, le renouvellement de la peau, c'est aussi la maturation des cellules de la peau et de l'épiderme en particulier, c'est-à-dire que elles sont capables de vieillir, mais de vieillir de façon au fur et à mesure de leur migration dans la peau, avant de s'évacuer vers l'extérieur, vers l'extérieur. Ce sont des cellules qui se différencient de plus en plus et qui finalement acquiert des propriétés en particulier de solidité, de structuration de la peau qui lui confère sa solidité.
Pourquoi les traces de cicatrices, par exemple, peuvent rester extrêmement longtemps alors?
Ça se réfère pas tellement à l'épiderme, parce que finalement l'épiderme agressé, il se renouvelle, il se répare sans lésion. Ça se réfère au fait qu'on va avoir des dommages, qui sont des dommages plus profonds dans la peau, au sein du derme en particulier. Et une cicatrice, c'est en fait effectivement un processus qui est celui d'une production destinée à la réparation de la peau, mais qui est quelquefois excessive, mais qui fait appel à des cellules particulières, qui sont les fibroblastes, qui sont, eux, les éléments cellulaires constitutifs de cette deuxième couche de la peau, qui est le derme.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque » pour cette émission Dermato.
Des colonnes de fumée filtrent quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de mes tranquilles. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, 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 au loin les pyramides, pourrais m'être tranquille. Aujourd'hui encore, nos pas lorsqu'ils passent savent nous montrer la voie de nos luttes. Et aujourd'hui encore, nos pas lorsqu'ils passent savent nous laisser quelques traces de lutte. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles.
Au loin des pyramides, et c'est Radio Elvis sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, on parle de la peau à l'occasion donc de ce premier rendez-vous journée santé de la peau. Ce sera samedi dans 8 villes de France avec Marie-Alette Richard et Florence Corgivet. Beaucoup de messages pour vous. Cette question de Laurence sur Twitter, elle aimerait savoir ce que vous pensez de cette actualité autour des cabines à UV et le vote contre celle-ci du Sénat. Florence Corgivet.
Alors, ça fait longtemps que les dermatologues ont tiré la sonnette d'alarme en expliquant que les UV dans ces cabines à ultraviolets ne sont pas du tout anodins. En fait, il s'agit d'UVA, qui sont des UV très longs et qui pénètrent très profondément dans la peau et qui sont donc responsables, non pas du coup de soleil lié aux UVB, mais d'un vieillissement solaire accru et de la cancérogénèse directement. Mmh. Donc, la problématique des cabines à ultraviolets, c'est que premièrement, ça induit un comportement addictif vis-à-vis du soleil, c'est-à-dire que cela permet par une petite protection que les personnes ayant acquis ce bronzage puissent rester plus longtemps au soleil, alors qu'autrement ils en souffriraient, ils l'éviteraient. Donc ça induit des expositions prolongées, permanentes, toute l'année. Et puis, on peut supposer quand même que les cabines ne sont pas aussi bien contrôlées. Et il n'est pas toujours sûr que la quantité d'UV délivrée soit celle proposée.
Mais rendez compte comme les messages sont difficiles à entendre, parce qu'évidemment, elles sont toujours autant fréquentées, en tout cas, ces cabines à UV.
Il y a toujours une mode du bronzage, tout de même qui est en nette diminution, mais qui est difficile à contrôler.
Ouais, en tout cas, interdiction qui a peu de chance d'être confirmé à cause du retour du texte devant l'Assemblée nationale. Marie-Annette Richard.
Oui, moi j'avais juste un commentaire qui est de dire que beaucoup de gens disent je vais faire des ultraviolets pour préparer ma peau au soleil. Ça n'a aucun sens. On ne va pas prendre un apéritif le matin pour pouvoir préparer le repas du soir. Donc c'est un peu le même niveau, si vous voulez, de bon sens. Je pense que ça fait partie des phrases un peu choc qui d'interpeller sur la nécessité d'aller préparer sa peau au soleil.
Je crois qu'on peut bien dire qu'effectivement le bronzage n'est pas une protection, parce que c'est un peu ce qu'on pense, n'est pas une véritable protection vis-à-vis des méfaits du soleil.
On écoute un extrait d'Interactualité sur France Inter, mais c'était en 1974 autour des crèmes solaires.
Et puis le conseil pour ceux qui ont l'obsession du bronzage, ceux qui partent à la chasse de la meilleure crème solaire, Jean Meyer, dermatologue.
Les crèmes anti-solaires ont comme but principal de permettre une exposition un peu plus prolongée sans coup de soleil. Au lieu que, dès l'arrivée, sans crème, les gens ne pourraient rester que quelques minutes à grand soleil, avec les crèmes, ils peuvent rester quelques dizaines de minutes, à condition que la crème ne coule pas, car beaucoup de crèmes coulent et ne servent plus à rien dès qu'il fait chaud.
Ah, la crème qui coule. Et ça, c'était en 1974. Mais le message reste le même, Marie-Alette Richard, au fond.
Alors, il y a deux choses. D'abord, on a fait beaucoup de progrès dans la galénique, effectivement, dans la cosmétique.
Ça coule moins.
De moins en moins de crème coule. Mais elle tâche toujours. Ouais. Et elle poisse, comme on dit. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts là-dessus.
Vous avez bien aimé notre copain, là.
J'ai bien aimé. Le message, c'est quand même de dire que, effectivement, ce qui est dit là juste, mais incomplet. C'est-à-dire qu'effectivement, une crème solaire. D'abord, le mot crème solaire est ambigu. Les photoprotecteurs externes sont là là pour nous protéger, mais nous protéger effectivement du coup de soleil. Mmh. Et c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement on va brûler moins, mais comme on brûle moins, on n'a plus le signal d'alerte normal de notre peau qui nous dit « cocotte, ça suffit, tu en as assez pris ». Mets-toi à l'ombre.
Elle vous parle comme ça, votre peau?
Ah, elle me parle quelquefois comme ça.
D'accord.
Deuxième message aussi, c'est que personne n'a jamais démontré que ces photoprotecteurs externes véritablement avaient leur mission vraie, qui était celle aussi de protéger la peau sur le vieillissement et sur la formation des cancers de la peau. On en est loin, on en est simplement à des systèmes chimiques qui permettent de réduire la pénétration des ultraviolets dans la peau et des signaux inflammatoires qui sont directement liés aux expositions précoces de la peau au soleil.
Quand Jean-Paul vous demande justement si la peau est un filtre par rapport aux rayons ultraviolets
du soleil... Oui, incomplet. Hein, et il l'est par sa structure anatomique, ses cellules, et par le bronzage, qui est donc un pigment qui va se mettre dans la peau, mais qui va être, suivant les individus, totalement insuffisant pour remplir sa mission de nous protéger du soleil.
Florence Corgibet, sur cet organe dont nous parlons, la peau, c'est un rôle de perception, c'est un organe très sensoriel, évidemment.
Alors,
la
tout
peau,
à fait, puisque c'est la peau véhicule le toucher, donc ça veut dire qu'on s'en sert beaucoup, on s'en sert en permanence, et c'est donc une fonction que les personnes atteintes de maladies dermatologiques perdent. Hein, quelqu'un qui a un eczéma chronique des mains, avec des fissures, on appelle ça une pulpite, c'est-à-dire une atteinte de la pulpe des doigts qui abrite justement ces petits corpuscules sensoriels. Il perd le toucher, il perd la dextérité, et c'est pour ça qu'il y a certains métiers qui ne sont plus exerçables avec ces pathologies. Et puis, cette peau véhicule la douleur. Et une peau malade est une peau douloureuse. Des patients qui ont du psoriasis souffrent de crevasses, de fissures. Et il y a une souffrance et une douleur de la peau qui s'exprime. Et également les démangeaisons, bien évidemment. Tout le monde a ressenti l'inconfort d'une démangeaison à l'occasion d'une poussée d'urticaire ou d'une piqûre de moustique, hein, qui peut être insupportable.
Marie Alette Richard, justement, le lien de la peau avec l'extérieur, avec notre environnement, il y a aussi ce capteur thermique qui est la peau.
En fait, la peau est un organe multisensoriel, il nous sert d'organe de communication avec l'extérieur. C'est par nos pieds, par nos mains qu'on touche les surfaces, parce qu'on a des récepteurs. C'est par nos mains ou notre corps qu'on sent le chaud, qu'on sent le froid, qu'on sent la pression, qu'on sent effectivement le vent, enfin, on va dire véritablement.
Donc il y a cette régulation aussi.
Alors il y a un outil de régulation, un outil de communication et d'interface et d'échange effectivement avec toutes les stimulations extérieures.
Larry sur Twitter, avant de se protéger, le rôle de la peau n'est-il pas de retenir l'eau?
Alors oui, parce qu'effectivement, je vais prendre l'exemple d'un brûlé. Un grand brûlé, s'il effectivement n'a plus sa fonction, enfin son système naturel de protection par les couches supérieures de la peau, va avoir, par le traumatisme, tendance à perdre des liquides, des fluides, du sérum, du plasma, des aimants figurés et en particulier de l'eau. Donc oui, quelque part, la peau nous permet effectivement, par sa structure, de retenir l'eau.
Florence Corgibet.
D'ailleurs, une des fonctions des crèmes hydratantes, c'est justement d'éviter cette évaporation, puisqu'on applique des corps gras qui empêchent l'évaporation de l'intérieur à travers la peau.
Une petite publicité.
Pour limiter la transmission des virus de l'hiver, on a le choix. Ne rien toucher ou se laver les mains plusieurs fois par jour.
Oui, ça c'était en 2011, une campagne de l'INPES pour inciter les Français à se laver les mains l'hiver contre les virus. Alors justement, on en parlait là encore, est-ce qu'il y a une mauvaise communication sur l'hygiène? Parce que c'est un facteur d'agression, trop d'hygiène, vous le disiez tout à l'heure, Florence
Corgibet. Alors, on a vu tout de même une grosse épidémie de dermite irritative, on va dire, depuis effectivement 2011 et la grippe aviaire, puisque c'était à ce moment-là.
Ouais.
Et effectivement, l'irruption des gels hydroalcooliques a permis des conduites, là encore également presque addictives.
Oui.
C'est-à-dire que le gel hydroalcoolique est un très bon instrument pour éviter, par exemple, les brossages intempestifs dans le milieu médical. Et donc, c'est une composition qui permet de respecter relativement le biofilm et le microbiote et le film hydrolipidique.
Ouais. Sauf qu'il y a des effets délétères,
savon,
on l'a bien vu.
Mais comme toujours, si on l'utilise de trop.
Ouais.
Et en médecine, il y a toujours un juste milieu à avoir. Et on voit des personnes qui
dans le monde médical, par exemple,
30 fois du gel hydroalcoolique dans les mains.
Ouais. Marie-Alette Richard, donc attention là aussi.
Oui, bien sûr, parce que c'est même ennuyeux, parce que les infirmières sont éduquées, formées et on va dire presque gendarmisées pour un lavage des mains. Mm-hmm. Et elles sont les premières à souffrir, en même temps qu'effectivement les chirurgiens, ouais. de ces agressions qui peuvent être liées au fait qu'elles sont obligées par ouais. leur fonction de se laver trop les mains. Et si on a une peau sensible au départ, ben, ça peut aboutir à des reclassements professionnels ou à des personnes qui ne peuvent pas exercer leur métier ou leur art.
Marine nous dit ceci sur Facebook. Qu'en est-il du débat sur le gel hydroalcoolique pour une utilisation quotidienne à l'école maternelle ?
Alors, on peut imaginer que l'entourage, les maîtres, les maîtres d'école utilisent ce genre de produits pour se préserver eux-mêmes. Mm-hmm. Je crois qu'il faut que tout le monde vive. On est quand même dans une société qui est faite pour des échanges, et je pense que il paraît illusoire de toute façon d'arriver à lutter contre tous les microbes, et que nous vivons dans un milieu qui n'est pas totalement stérile, et fort heureusement, probablement. Car de toute façon, il y aurait un autre germe. À partir du moment où on a compris qu'à partir du moment où on tuait toute une partie, il y avait d'autres germes qui arrivaient et qui prenaient la place. Mmh. Donc c'est illusoire.
Allez, eczéma, psoriasis, carcinome, dans un instant on en parle. Et puis beaucoup de questions avec vos réponses dans La Tête au Carré.
Allez, viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais... que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle.
Je t'emmène au vent. Louise Attaque sur France Inter. La Tête au Carré à l'occasion de la première journée de la santé de la peau. Ce sera donc samedi dans toute la France. Journée santé de la peau.fr pour savoir où se trouvent justement les dermatologues près de chez vous pour discuter, dialoguer, vous renseigner, vous conseiller. Et beaucoup de messages sur Facebook, Twitter, le site de La Tête au Carré. Laurence nous dit ceci. Les roues cicatrisent moins vite que les autres. Est-ce vrai?
Non,
et pourquoi, Florence Corgi? C'est faux.
Non, pas du tout, bien sûr. La peau rousse a simplement un pigment un peu plus rouge qu'une peau brune, qui a un pigment marron, mais c'est exactement la même qualité de peau.
Annie demande pourquoi est-ce qu'on développe de l'acné à l'âge adulte? Est-ce qu'il y a un traitement vraiment efficace et définitif, c'est-à-dire sans récidive?
Alors, l'acné de l'âge adulte est un problème volontiers quand même chez les femmes, et souvent avec un support hormonal.
Ouais.
Donc, le traitement passe souvent par une régulation du système hormonal.
Pourquoi encore de l'acné après l'âge critique de l'adolescence?
Parce qu'on a une peau acnéique. Ce n'est plus une acné de la puberté qui est un passage et une adaptation aux modifications hormonales, mais c'est une peau à tendance acnéique et qu'on régule au mieux tout de même par une prise en charge souvent hormonale.
Marie-Annette Richard.
On est entièrement d'accord. Alors, on se pose la question de l'alimentation quelquefois aussi, quand même, dans certaines de ces acnés. Elles ne représentent pas tout. Mais il commence à y avoir un petit peu des éléments de réflexion aussi sur l'insulinorésistance et certains apports alimentaires quand même dans certaines acnés.
Voilà, faire attention aussi à certains cosmétiques. Qui peuvent être des acnés, on dit factices, c'est-à-dire fabriqués par des crèmes hydratantes ou des fonds de teint trop occlusifs.
Ouais. Facebook, Sylvain nous dit ceci: j'ai le corps recouvert de grains de beauté, suis-je condamné à mourir d'un cancer de la peau? Oh là, faut le rassurer.
Heureusement
que non.
Faites-vous surveiller, tout simplement.
Alors, la problématique de plein de grains de beauté veut dire que probablement il y a eu, à un moment favorisant, en particulier dans l'enfance, probablement des expositions solaires, probablement excessive par rapport à ce que le type de peau de la personne en question était capable de supporter, ce qui a induit de nombreux grains de beauté et ce qui donc rend très compliqué le dépistage au milieu de ces grains de beauté d'une nouvelle tache qui pourrait être un mélanome. Donc ces patients doivent être suivis parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de voir une tache bizarre qui serait très visible chez quelqu'un qui n'a aucun grain de beauté.
Et du coup, il faut faire quand même attention au soleil à l'âge adulte quand
tout
on
à fait,
est porteur
bien sûr,
de grains de beauté.
Parce que c'est une accumulation. C'est un cumul d'exposition solaire et s'il y a eu trop de soleil dans l'enfance, il faut encore plus se protéger. C'est pourquoi on protège beaucoup les enfants, pour pouvoir leur permettre de garder une certaine capacité à recevoir un peu de soleil.
Marie-Alette Richard, Christophe sur Twitter: les croûtes qui se forment lors de blessures, est-ce de la peau en décomposition?
Miam, miam. Oh, c'est une façon un peu caricaturale de dire qu'il y a une effraction de la peau et un suintement, et les croûtes sont la concrétion du sérum ou des éléments du sang qui aident quand même au processus de cicatrisation. Et ça fait un pansement naturel, une croûte au départ.
Existe-t-il un traitement efficace contre le vitiligo? Tiens, dans Paris Match, cette semaine, il y a un grand reportage sur ce mannequin américain,
qui a fait une campagne et qui s'expose.
Ses grandes taches
de vitiligo.
Et qui s'expose
et qui a le courage de montrer qu'on peut être tout à fait jolie et désirable avec un vitiligo. Un traitement efficace, une prise en charge est possible. Une prise en charge possible avec des prises en charge cosmétiques, une prise en charge avec certains traitements qui se discutent.
Les UV, par exemple.
Entre autres, certaines applications locales de produits qui peuvent être utilisées en particulier sur les endroits qui se voient.
Marie-Alette Richard.
Simplement un commentaire à l'exemple, à travers cette jeune femme qui est le contre-exemple vraiment de ce que sont souvent les maladies de la peau, qui sont vécues souvent comme stigmatisantes, comme affichantes, comme invalidantes et qui ne permettent pas très souvent d'avoir un contact optimal dans sa relation avec les autres. Et ce témoignage et ce courage de cette femme, c'est de montrer que finalement on peut faire quelque chose et qu'on peut modifier le regard des autres. C'est un petit peu ça le message que je voulais donner.
Alors, des questions beaucoup sur le psoriasis que je vais vous poser dans un instant. Isabelle, par exemple, est-ce que c'est une surprolifération des cellules? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Marie-Annette Richard?
C'est une surprolifération. Plusieurs facteurs interviennent, mais c'est effectivement un renouvellement accru des cellules de l'épiderme, des kératinocytes. Et une maladie inflammatoire, parce qu'il y a une partie inflammatoire qui est à l'origine de ces phénomènes.
Ouais, on va écouter justement le témoignage de patients atteints de psoriasis, Nasser, 31 ans, et Déborah, 21 ans, donc tous les deux atteints de cette maladie. Et face à la caméra, ils partageaient leur vécu et leur gestion de cette maladie dermatologique au quotidien.
Maladie?
Une sorte de peste.
Contrainte?
Une malédiction, voilà.
Galère au quotidien?
Très démangeaison.
Dérangeant?
Brûlure.
Désagréable?
Frustration.
Dégoût. Quand on voit une partie atteinte par le psoriasis, ça peut attirer des regards, des gens qui s'interrogent sur ce que c'est.
Qu'est-ce que t'as? Tu t'es brûlé? Qu'est-ce que c'est que ces plaques rouges? Et la fois où vraiment j'ai vraiment pété un câble, c'était dans le métro, la nana qui a changé de place, quoi.
Voilà, Marie-Alette Richard, la peste, la malédiction, le dégoût.
Superbe illustration par le témoignage des patients de la façon dont on les vit et dont ils se vivent eux-mêmes. C'est perte de l'estime de soi, ces éléments dépressifs, ces éléments en plus de dévalorisation vis-à-vis des autres et le regard des autres, oui, qui est souvent effroyable.
C'est 5% de la population française, oui, quand même, le psoriasis.
Oui, c'est une maladie très fréquente qui s'exprime sous des, heureusement, sous des formes différentes. Il peut y avoir des formes très très frustres. Rappelons que c'est vraiment une maladie génétique,
oui,
qui certes a des fonctions, enfin a des poussées favorisées par le stress, mais nous luttons un petit peu contre cette culpabilisation.
C'est pas contagieux.
Ça n'est pas contagieux. Ça cicatrise totalement, c'est-à-dire que la personne ayant un traitement efficace va récupérer une peau strictement normale. Mmh. Hein, ça, c'est important de le savoir. Et c'est tout de même une maladie qui bénéficie actuellement d'une prise en charge révolutionnaire depuis quelques années. Et,
ouais,
et nous plaidons pour vraiment des traitements.
On ne guérit pas,
comme
on corrige.
Toute maladie chronique. Mmh. On ne guérit pas le diabète, on ne guérit pas les problèmes cardiaques, on ne guérit pas. Mais on les soigne, on les contrôle.
Mmh. Marie-Alette Richard.
Non, c'est ça, c'est que il faut changer un petit peu le message qui est encore malgré tout celui que beaucoup de patients ont, qui est de dire on ne peut rien faire pour vous. Non, beaucoup de choses sont tout à fait faisables maintenant dans nos maladies chroniques de la peau et en particulier pour le psoriasis.
Geneviève nous dit ceci: en Allemagne et en Suisse, les pédiatres préconisent de ne pas baigner les enfants plus d'une fois par semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces messages?
Alors peut-être qu'une fois par semaine, c'est
pas beaucoup quand même. Hein,
voilà. Ouais. Ce qu'on peut passer comme message, c'est qu'on peut très bien prendre une douche sans se savonner à chaque fois. Hein, on peut très bien passer un petit coup d'eau pour se rafraîchir, etc. Et les enfants qui ont de l'eczéma, on évite effectivement des bains prolongés, car l'eau est irritante.
Sibi nous dit ceci: concernant la peau noire, qu'est-ce que vous conseillez pour en prendre soin? Est-ce qu'il y a des traitements différents par rapport à la peau blanche?
Pas du tout. Non, les soins sont les mêmes. Simplement, effectivement, il faut faire attention qu'une peau noire, lorsqu'elle est enflammée, marque pendant très longtemps. Donc il y a des taches qui vont persister, qui sont souvent des fortes demandes thérapeutiques de la part des patients.
Ouais. On observe ces dernières années une forte recrudescence des cas de cancer cutané. Ça, c'est ce que vous observez également, Florence Corgelet. 40 000 à 50 000 nouveaux cas chaque année dans notre pays. On l'explique comment? Alors, c'est une épidémie.
Alors,
hein,
c'est une épidémie. C'est une épidémie qui est liée à deux facteurs. Un facteur d'ensoleillement. On sait que le soleil peut favoriser les cancers cutanés, mais au bout de 20 ou 30 ans. Mmh. Donc là, il est clair que nous travaillons sur les générations qui sont beaucoup trop exposées dans les années 70. Mmh. Et puis, tout simplement, le boom des seniors. Hein, nous avons de plus en plus de personnes âgées qui sont en bonne santé, qui s'exposent, qui continuent de faire du sport et qui méritent d'être pris en charge. Mmh. Donc, c'est presque plus le vieillissement de la population que véritablement une épidémie.
Donc à surveiller.
À surveiller.
De très près, voilà. Évidemment, ne pas hésiter à aller consulter. Larry, que dire des mentions testées dermatologiquement qu'on va fleurir sur les produits? Est-ce qu'il faut s'y fier ou pas?
Il y a toujours, tous les produits qui sont commercialisés font l'objet de tests pour vérifier qu'ils sont, tout à fait utilisables par tout le monde. Après, il y a souvent derrière quand même une notion marketing. Testé dermatologiquement est en garant, soi-disant, d'une qualité irréprochable. Il n'y a pas vraiment, à mon sens, de définition du testé dermatologiquement.
Mmh. Le savon d'Alep est-il aussi abrasif que le savon de Marseille, Florence Corgelet?
Je crois que c'est à peu près la même formulation. À partir du moment où c'est un savon, on sait que c'est une formule détergente et il n'y a pas plus de justification que les autres.
Le diabète de la peau, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Demande Anna. Le diabète de la peau, ça existe?
Non. On peut interpréter les choses autrement, c'est-à-dire que les personnes diabétiques ont une peau plus fragile et qui les expose à des retards de cicatrisation et à des infections. Donc on demande vraiment une hygiène très importante, en particulier l'hygiène des pieds, car les moindres plaies associées à la neuropathie du diabétique et à la micro-angiopathie diminuent la cicatrisation et fait des plaies torpides, pouvant conduire parfois à des amputations.
On va terminer là-dessus, mais on aurait pu faire 2, 3, 4 émissions, vu le nombre de messages qu'on reçoit. Ben, oui. C'est l'occasion d'aller vous voir,
voilà,
justement.
Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réponses à apporter sur toutes ces problématiques.
La première journée de la santé de la peau avec un site internet qui est en lien sur La Tête au Carré dans un certain nombre de villes. Elles sont 8 au total, dont Dijon, Paris, de mémoire,
Lyon, Nancy, Lille, Rouen-Caen, Clermont-Ferrand.
Voilà, toutes les infos. Merci beaucoup d'être venu.
Venez nombreux, merci à France Inter.
Merci.
La tête au carré. Merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, Mathieu Vidard.
Le thème d'affaires sensibles tout à l'heure, s'il vous plaît.
La privatisation TF1 en 1987. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Claude Raspienjas, journaliste à La Croix. Il était à Télérama à l'époque. Donc il a vécu ça aux premières loges.
À tout à l'heure, après les infos.